Je ne prétends pas tout savoir sur lui, loin de là. Je veux juste partager avec vous mon expérience et mes observations durant toutes ces années passées sur le terrain. Tous les animaux que vous verrez photographiés sont libres et sauvages. Alors, toutes les photos et les vidéos que vous verrez, nous les avions faites ensemble avec Jacques Borel. Il aurait eu, je le sais, l'immense plaisir de monter ce diaporama et de vous le présenter avec toute la verve et le professionnalisme qu'on lui connaissait. La plupart des prises de vue ont été faites en Auvergne, dans le Cantal plus précisément. Cette région possède des paysages grandioses de montagnes, de vallons et de hauts plateaux. Des forêts majestueuses aux paysages lunaires, des appuis rocheux aux vertes vallées, tout y est représenté. Durant plusieurs années, nous y sommes allés régulièrement pour observer les cerfs pendant les saisons des velours au printemps et celle du brame en automne, et ceci du lever de jour au coucher de soleil. Les distances de prise de vue étaient extrêmement variables, cela dépendait de la configuration des lieux, bien sûr, et des circonstances. En général, c'était de l'ordre de 50 à 100 mètres, mais il y a eu des prises de vue à plus de 300 mètres et d'autres à moins de 15 mètres. La plupart du temps, c'était un affût. Alors on m'a demandé ce qu'était un affût. Alors voilà M. Borel à l'affût. Comment ça, vous ne le voyez pas? Le voilà sans cagoule. Voilà, là il est à l'affût. Alors quelquefois les affûts se faisaient dans la voiture. Ça, ici c'est un affût 3 étoiles. Et là, c'est quand on ne peut pas faire autrement. C'est moi, là. Bon, revenons à nos moutons, enfin nos cerfs. Donc, le cerf est un mammifère ruminant, comme le sont les vaches, par exemple. Il vit dans de grandes forêts, aussi bien en plaine qu'en montagne. Quand il n'est pas chassé, le cerf a une espérance de vie de 20 ans. Il mesure 1,20 m à 1,45 m au garrot environ, pour 1,70 m à 2,40 m de long, et pour un poids pouvant atteindre 200 kg. Généralement, c'est de l'ordre de 150. Les biches, elles, sont plus petites d'un tiers, de 80 à 110 kg. Alors, seuls les mâles portent des bois. Ce ne sont pas des cornes. Ce ne sont pas des cornes creuses, mais une formation osseuse qui tombe tous les ans. Les bois peuvent atteindre 1,20 m pour un poids de 6 à 15 kg. En moyenne, c'est 1 mètre pour 7 kg. Chaque pointe est nommée corps, mais leur nombre n'est pas directement lié à l'âge de l'animal, on le verra tout à l'heure. Alors, il ne faut pas confondre cerf et biche avec chevreuil et chevrette. Voici la différence de taille des bois. Alors, le petit, ouais, c'est un chevreuil, voyez, et le grand, c'est un cerf. Donc, si vous vous trompez, maintenant, vous êtes impardonnable. Le cerf, lui, est 2 fois plus haut que le chevreuil et 5 fois plus lourd. Le chevreuil et sa femelle sont de la taille d'une chèvre. Donc c'est facile à se rappeler. 70 cm de haut environ pour 30 à 35 kg. Alors que le cerf, lui, est aussi haut qu'une vache. Ici, on voit sur la photo, les deux sujets sont sensiblement du même âge. Alors le cerf, excusez-moi, se nourrit de la végétation des forêts, notamment les glands, les châtaignes, les fennes, mais aussi des genêts, des bruyères, et il se régale dans les pâturages, céréales, trèfles, luzernes, mais il mange aussi les jeunes pousses tendres, les sommets et rameaux des arbustes, les graminées, les bourgeons. Il équilibre aussi sa nourriture en mangeant des matières inertes telles que la terre, les feuilles sèches ou le gravier, ce qui est nécessaire à tous les ruminants. En hiver, le lierre, les ronces, les écorces d'arbres, et là, on voit bien les dégâts sur un jeune arbre. C'est en fait son alimentation qui le fait mal aimer des forestiers et des agriculteurs, on le comprend. Mais ce sont ses bois qui le font désirer des chasseurs pour le trophée. Donc il n'a pas beaucoup de chance, le gars. Les cerfs et les biches. Alors, c'est une société matriarcale. Moi, j'aime bien ça. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est dirigé par les femelles. La hiérarchie est respectée jusque dans leur ordre de marche, sous la conduite. Alors, de la biche meneuse, qui est devant, on la voit, la plus grande devant, de la biche meneuse, donc, qui est devant accompagné de son faon et éventuellement de la bichette de l'année précédente. Puis vient derrière la descendante la plus âgée, suivie de son propre faon, et ainsi de suite. Les mâles, s'il y en a, viennent en dernier. Jeune cerf de deuxième et troisième tête, enfin de deuxième et troisième année, on va dire, le plus âgé ferme la marche. C'est vraiment très, très structuré. Et tout au long de l'année, biches et grands cerfs vivent séparés. Tout le groupe des biches, donc, est dirigé par une biche meneuse. C'est elle qui décide des lieux de repos et de gagnage. Le gagnage, c'est le champ ou la prairie où les animaux vont prendre leur repas, leur nourriture. Mais c'est elle aussi qui décide et détermine s'il y a danger et s'il y a fuite. C'est elle qui donne l'ordre à tout le monde. Alors pendant l'hiver, plusieurs groupes familiaux peuvent se réunir en grande harde d'une vingtaine de têtes et même davantage. C'est alors la plus âgée des biches qui devient meneuse. Les grands cerfs, eux, vivent cachés dans les forêts denses et quelquefois ils sont accompagnés de cerfs plus jeunes. C'est-à-dire que ce cerf plus jeune servira d'avant-garde pour le vieux. C'est lui qui sortira à découvert en premier et qui indiquera ainsi à son aîné s'il y a danger ou pas. Donc la gestation de la biche dure environ 33 semaines, soit 8 mois et demi. Et elle met bas généralement la deuxième quinzaine de mai ou début juin. En général, elle n'a qu'un seul faon. Elle peut porter dès l'âge de 2 ans et devient stérile autour de sa 16e année, quand elle y arrive. On l'a dit alors bréhaigne. Et voilà Bambi. Le faon, lui, il pèse 7 kg environ à la naissance et son pelage est caractéristique. Il est brun, moucheté de clair. Il est uniquement élevé par la mère et il peut la suivre à peine âgé de quelques jours. Bon, cette photo, je l'ai prise une année, fin septembre. La biche qui a mis au monde ce faon est vraisemblablement très jeune. C'est sûrement l'un de ses tout premiers faons. Il faut savoir que les biches les plus jeunes sont saillies en tout dernier, donc mettent bas plus tard dans l'année. Et celui-ci, il a peu de chances de survivre à l'hiver qui fait à montagne. Voilà le petit Bambi, il est bien marqué celui-là. En voici un autre, c'est à l'ordre de maman pour franchir le barbelé. Alors le petit est appelé faon jusqu'à l'âge de 6 mois. Ensuite, il sera appelé R jusqu'à 1 an. Voilà, celui-là, il est presque aussi grand que sa mère et il tète encore. Nous allons voir les têtes de cerf. Voici une belle tête. On va voir ce qui la compose. D'abord, vous avez en bas le larmier. Le larmier, c'est une glande qui sécrète un liquide épais qui va lui servir à marquer la végétation, à marquer le territoire partout où il passe. Ensuite, vous avez en dessous, vous avez les pivots. Le pivot, c'est une proéminence de l'os du crâne où sont plantés les bois. Alors, ce pivot, il s'élargit et se raccourcit au fil des ans de 2 à 3 mm par an. Ensuite, vous avez la meule avec ses perlures, qui sont de plus en plus marquées avec l'âge. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mérin ou la perche. Voilà. Vous avez ensuite l'andouillé de massacre, qui porte bien son nom, devant. Voilà. En suivant, vous avez le surandouillé. vous avez ensuite la chevillure, et ensuite le haut du bois, qu'on nomme pointe quand il n'y a qu'un corps, on le nomme enfourchure quand il y a deux pointes, et on l'appelle empaumure quand il y en a plusieurs. Alors à partir de 1 an, le jeune cerf devient dagué, car il porte ses premiers bois en forme de dague. Ici, on voit un tout jeune dagué, on va agrandir la base des bois pour voir le pivot. Voilà, le pivot se voit très bien chez ce jeune, c'est l'excroissance osseuse sur le crâne, là d'où poussent les bois. Ils sont très nettement visibles chez les jeunes cerfs et se réduiront d'année en année jusqu'à devenir à peine visibles chez les vieux cerfs. Voilà un autre daguet. Voilà, j'ai agrandi, la photo n'est pas terrible quand on a agrandi, mais on voit la meule qui a pas beaucoup de perlure encore. Alors ici, on voit un cerf dont les bois sont en velours. Alors, je vous explique ce qui se passe, c'est qu'à la chute des bois, qu'on nomme aussi la mue, les pivots saignent brièvement et cicatrisent en formant un bourrelet recouvert d'une fine peau au poil court. C'est cet aspect qui a donné le nom de velours. Ce sont les animaux les plus âgés qui perdent leur bois en premier. On dit alors que les cerfs sont en refait. Le velours est en fait une peau sensible et très irriguée. Les bois en formation sont alors très tendres et les bêtes veillent surtout à ne pas les choquer ou les accrocher pour ne pas les abîmer. Ça, c'est au printemps tout ça, hein? Généralement, quand la pousse est terminée, le cerf frotte ses bois contre les arbres pour aider le velours à tomber et ensuite il le mange. Donc c'est pour ça qu'on n'en trouve jamais dans la nature. La repousse, ou refait, est terminée le 25 juillet pour les grands cerfs et se poursuit jusqu'à fin août pour les plus jeunes. La repousse des bois se fait d'un centimètre par jour pour être totalement formée au moment du rut. Les bois comportent généralement un corps de plus jusqu'à l'âge de 12 ans. Cependant, le développement des corps est dépendant de la qualité de l'environnement, il est dépendant de la qualité génétique, mais aussi de la tranquillité et de la bonne alimentation des cerfs. Dans les parcs où les cerfs sont abondamment nourris, ils peuvent porter des bois comportant un nombre inhabituel de corps, jusqu'à 20, 24, 26, chose que l'on ne voit pas à l'état sauvage. Alors si vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai photographié un 26 corps dans la montagne », demandez-lui combien il a payé l'entrée du zoo. Les bois croissent progressivement pendant le printemps, en 4 mois environ, toujours enveloppés de velours. D'abord spongieuse, l'ossification se durcit dans un deuxième temps. Ensuite, le cerf sera classifié suivant ses bois. Donc, la troisième année, il est nommé deuxième tête, car il porte ses premiers bois formés. La quatrième année, troisième tête, etc. Ici, on voit une deuxième tête, c'est la première en formation des bois. Voici une troisième tête. Ici, un cerf tout jeune. Alors, il faut noter le port de tête haut, au-dessus de la ligne du dos. Vous voyez la ligne du dos, sur le dos, voilà, et la tête est nettement au-dessus. Et ce cerf possède un fanon très fin. Voilà, le fanon, c'est le cou, on voit qu'il est fin. Donc celui-ci est un peu plus âgé, on le voit au fanon plus large, mais c'est encore un jeune cerf. Voilà, des bois un peu plus développés, c'est un beau cerf d'avenir. Et voici un cerf un peu plus âgé. On le reconnaît à son fanon imposant, mais aussi à son corps très musclé. Mais alors celui-ci ne porte que 8 corps. Il n'évoluera pas plus dans le développement de ses bois, parce qu'il est déjà âgé, il n'est pas allé au-dessus de 8. On le nomme alors un 8 perpétuel. Il restera toujours un 8. Voilà, c'est pourquoi il est difficile de donner l'âge d'un cerf. Il ne faut pas se fier au nombre de corps. La façon la plus sûre, c'est d'examiner la nutrition. Je peux vous dire que ce n'est pas facile quand ils sont vivants. Ils ne sont pas très coopératifs. Donc voici un 10 corps. Donc comme vous voyez, on compte au nombre de pointes. La paire n'est pas toujours égale. Voilà, je vous ai mis quelques photos de grands cerfs. Ils sont tellement beaux. Ah, celui-là, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est mon copain, celui-là. Voilà, on nomme grand cerf une bête qui porte 10 corps et plus. Voilà notre 12 corps. Il est beau celui-là aussi. Voilà un 12. Un autre. Voilà un 13. Là, il a 4 en haut et 3, 4 à gauche et 3 à droite. Alors voilà un 12 qui est âgé. Il a le port de tête très bas, le fanon imposant. Et au fur et à mesure que le cerf prend de l'âge, ses bois vont perdre en beauté. Voici un cerf âgé. Il développe de moins en moins ses bois. Ils sont généralement irréguliers. Les pivots sont devenus quasiment inexistants. On ne voit plus que le mérin. Il n'y a même plus d'andouillé, ni de surandouillé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le mérin. Voilà, on voit bien ici l'irrégularité des bois. Le port de tête très bas. Un cerf usé, fatigué. Il doit être vieux. Ou environ d'une quinzaine d'années, celui-ci. Voilà, on dit alors que le cerf ravale. Alors, celui-ci, c'est une particularité, c'est ce qu'on appelle un cerf assassin, parce qu'il est doté de bois formés d'une ou de deux dagues meurtrières. Il n'y a pas d'empaumure, donc sans empaumure, ça permet, s'il se bat, le mérin va traverser l'adversaire. Donc, c'est sûr que, voilà. Alors, lorsque le grand cerf se prépare à sortir seul du bois en plein jour, il se positionne en bordure des arbres, encore bien caché par la végétation. Il observe, immobile, durant de longues minutes. Son odorat très fin peut détecter les odeurs jusqu'à 300 mètres par vent favorable. Le voir alors est extrêmement difficile, mais lui, il ne manque rien du moindre mouvement à plusieurs centaines de mètres alentour. Au moindre doute, il fait demi-tour et il rentre à couvert. Ainsi, on comprend qu'un photographe, par exemple, qui est un billebaud, c'est-à-dire qui se balade avec son appareil photo, un photographe qui passe par là n'ait pas l'impression d'avoir rien dérangé, alors que sa présence a été remarquée depuis bien longtemps. Alors, le passage des barbelés, ou des clôtures, peut se faire par-dessus d'un bond, sans élan, avec une puissance étonnante, mais aussi par-dessous, en suivant invariablement les traces marquées par les nombreux passages, et toujours aux mêmes endroits. Donc pour la biche, gracile et légère que le mâle, tout a l'air simple, par-dessus la clôture. Le mâle aussi fait preuve d'agilité et d'une grande puissance. Voilà. Ça a l'air facile. D'un bond, vu de dos, il va falloir qu'il monte l'arrière-train là, sinon ça va coucher. De côté, ça bouge, il y a eu du vent. Le passage par-dessous les barbelés, c'est facile pour la biche. Enfin, je suppose que vous avez tous déjà passé des barbelés. Moi, perso, j'accroche à tous les coups. Hein, c'est pas... Et pour ce jeune-là aussi, c'est facile avec ses petites dagues. Et on peut se demander comment un animal aussi gros, en est d'une paire de bois aussi imposante, donc je vous rappelle, en moyenne 1 mètre et 7 kilos, peut se faufiler sous quelques centimètres. Alors d'abord... D'abord, il sent l'endroit où sont passés les autres animaux. Ça lui permet aussi d'identifier ses congénères. Avec précision et agilité, il va d'abord glisser un bois sous le barbelé. Il tourne la tête de l'autre côté et peut ainsi engager le second bois. Voilà, il vient de passer toute la ramure. Il ne lui reste plus qu'à se baisser et courber l'échine pour passer le corps. Voilà, on le revoit sous un autre angle, le premier bois, le second... La tête est passée, il ne reste plus qu'à se baisser. Voilà, c'est pas facile, hein? Oui, il y avait du vent ce jour-là. Oui, ils passent toujours aux mêmes endroits, en file indienne. Voilà Pépère qui arrive. Voilà, il sent le barbelé. Il regarde que tout aille bien dehors. Voilà, celui-là plus astucieux, il y avait un trou dans la terre, il a passé les deux d'un coup. Alors au moment du brame, le cerf a réuni plusieurs femelles, toujours accompagnées des fans et des jeunes de l'année. Par contre, il a écarté les daguets et les jeunes cerfs. Alors ce moment-là, on l'appelle la harde ou le harem. L'unique préoccupation du cerf pendant cette période, c'est de garder avec lui les femelles et de repousser les autres prétendants. C'est la biche meneuse, toujours, qui décide des déplacements du groupe, et le cerf doit veiller à ce qu'aucune ne s'écarte de la harde pour essayer d'aller voir ailleurs. Ici, on voit le cerf continuer à surveiller son harem, tout en affirmant sa place en bramant. Durant tout ce temps, le cerf ne mange pratiquement pas. Il dort très peu, il attend le moment où une de ses biches sera prête pour l'accouplement. On voit ici, tout le groupe est au gagnage. C'est bon, la meneuse qui décide du lieu, mais aussi de la fuite en cas de danger. Alors il faut savoir que la biche n'est fécondable que pendant quelques heures seulement, et le moindre dérangement à ce moment-là sera dramatique pour sa reproduction. Alors je vais vous faire un petit aparté, vous donner quelques conseils pour tenter d'observer le brame sans déranger. Déjà, la première des choses, c'est de rester dans les chemins ou les observatoires. Alors, il faut surtout ne pas faire de bruit, ne pas claquer les portières. On n'y pense pas, mais en arrivant, il ne faut pas claquer les portières. Et il ne faut pas parler fort, il ne faut pas crier, il ne faut pas courir. Le grand mouvement, il repère de loin. Il faut s'habiller de couleur sombre, sans parfum. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas éclairer les places de brame. Ça, c'est dramatique aussi. Il ne faut pas laisser les chiens divaguer, c'est d'ailleurs pas un endroit pour promener les chiens. Enfin, en résumé, il faut se faire oublier, sinon vous n'aurez pas de possibilité de voir sortir un cerf. Alors cette vidéo, je l'ai faite un jour, on voyait au loin toute une bande noire, on se demandait ce que c'était, en fait avec les jumelles, on a compris que c'était une harde qui arrivait. Et le cerf, vous voyez comme il est fier, il avait 25 biches autour de lui. Enfin, biche et fan. Mais en fait, il avait 25 têtes autour de lui. Et bien, vous voyez qu'il est fier, le gars. Hein. Et il a amené tout son petit monde rentrer dans le bois. Et vous voyez, tous, ils passent au même endroit, hein, c'est invariable. Alors le brame, c'est le nom donné à la période de rut chez le cerf, mais c'est aussi le rerre puissant qui peut s'entendre à plusieurs kilomètres. Il sert à éloigner les rivaux possibles, il sert à montrer qu'il est le maître de place, et il sert aussi à attirer les femelles. Le brame débute mi-septembre, plus tôt, quand on remonte dans le nord du pays, ça démarre un peu plus tôt. Et ça se termine en général à mi-octobre. Donc les grands cerfs qui sont capables de tenir une place de brame sont presque invisibles toute l'année, sauf à la pointe du jour ou à la nuit tombante. Dans les jours qui précèdent la période de reproduction, les grands cerfs, comme par miracle, deviennent de plus en plus visibles. On les voit en plein jour, à découvert, comme s'ils avaient oublié l'extrême prudence qui les guide toute l'année. Voici la position typique pendant le brame, la tête en arrière, les bois presque posés sur le dos. Alors celui-là, bon, il faut que je vous raconte, je ne peux pas passer à côté. C'est la première année où j'allais, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure là, c'est mon copain. C'est la première année où je partais au Brame avec Monsieur Borel et on s'était installé un soir au bord d'un pré qui était enclavé au milieu des bois. Et donc on était cachés avec des filets. Et je devais, moi, surveiller le haut du pré à peu près 80-100 mètres. Il y avait une sortie de bois et tout mon côté droit. Et Monsieur Borel, à côté de moi, devait surveiller tout le côté gauche avec une autre sortie de bois. Et puis, ça faisait bien une heure qu'on attendait, les yeux rivés dans l'appareil, à essayer de voir une branche qui bouge. Et puis, tout d'un coup, Monsieur Borel me met une grande tape dans l'épaule. Alors, je me regarde. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, regarde. Et en fait, j'ai réussi à voir à travers les filets. Il y avait ce monsieur-là qui arrivait, il était sorti complètement à gauche. Et il nous passait devant. Il arrivait devant, juste devant nous, à quelques mètres. Je ne pouvais même pas faire de photo, il était trop près. Et puis, il s'est éloigné un petit peu. Et alors là, il a poussé un brame pour la photo. Mais je peux vous dire que le brame, quand vous êtes juste à côté, vous avez les poils qui se lèvent tout seuls. Mais c'est pas la peur, c'est l'impression, c'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est un petit peu parti. Alors, les places de brame sont généralement choisies pour la facilité de leur surveillance, avec de bons dégagements et la présence de clairières et de forêts. Ils sont choisis aussi pour leur situation. Compte tenu des vents dominants, il doit être propice à la détection d'un danger ou à l'approche d'un intrus. Mais aussi, en même temps, il doit assurer de bonnes conditions de quiétude. À noter que le cerf en rut dégage une odeur forte à l'arôme musqué. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ici, on le voit dans la froidure du matin. Alors, une arrière-saison chaude retardera un peu le brame. C'est ce qui a été le cas cette année, en fait. Par contre, les premières gelées, en montagne notamment, déclencheront les rares à coup sûr. Alors le cerf peut aussi pousser un grognement pour signaler sa présence. On dit alors qu'il rôte. C'est un rôt, en fait. On l'observe surtout quand le cerf est couché, qu'il ne prend même pas la peine de pousser son bras. Il y avait plusieurs cerfs autour qui se répondaient les uns les autres. Donc, le cerf en rut dépense énormément d'énergie durant cette période et on le voit souvent exténué. Il peut parcourir, il faut le savoir, des kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre une place de brame ou un groupe de femelles. Alors, on voit là avec l'œil exorbité, la langue tirée. Celui-là aussi est plus jeune, mais il est fatigué aussi. Alors le cerf se pourlèche régulièrement lors de l'excitation extrême. C'est difficile de montrer en photo, donc je vous ai mis une petite vidéo. Voilà, on voit la langue pendante. Bon, il n'y a pas de son, j'étais extrêmement loin. Et voilà, en train de se pourlécher. Alors, s'ébrouer, se gratter, c'est pas typique au brame. Mais bon, comme c'est pas courant de voir de telles scènes, je vous ai mis quelques images. Voilà, essayez de vous gratter l'arrière de la tête avec le pied. Ah, ça c'est pratique pour se gratter le dos. Ça a l'air de lui faire du bien. Donc voilà un ébrouement. Là, il se bourlèche. Et un ébrouement. Il place le brame son immuable. Le cerf qui s'attribue une place va marquer son territoire, notamment en frottant vigoureusement ses bois sur le sol ou en grattant le sol de sa boue. Et il s'asperge d'urine et de sperme mélangés. C'est ce qui donne son odeur forte au cerf pendant cette période. Alors voici un gros plan. Il va également, en grattant le sol, orner ses bois d'herbes et de végétaux. On le dit alors coiffé. Il n'est pas rare à l'avoir avec ses décorations. Elle a bien eu, c'est sûr. Elle a mis partout. Aussi, il est fier. Celui-ci, alors, il s'est coiffé avec de la ficelle de lieuse. Il ne va pas s'en débarrasser de sitôt, hein, je peux dire. Alors le cerf utilise également ses bois pour marquer son passage en cassant du bois, c'est-à-dire qu'il brise furieusement les branches qui sont à sa portée. Il se frotte contre les troncs d'arbres pour marquer son territoire, notamment avec son larmier, pour laisser une trace olfactive de son passage. Alors, voilà, j'ai encore une anecdote, je suis désolée, je vais partir à minuit ce soir, mais je me souviens un matin, avant le lever du jour, M. Morel me dépose en voiture au pied d'un versant, d'un grand versant, et il m'a dit, tu montes là-haut à, je sais pas, 150 mètres, on avait préparé un affût au pied des arbres, mais c'est que le versant était vraiment raide. Et il m'a dit, tu montes et tu prends le passadis. Alors le passadis en patois, c'est la trace des animaux, donc c'est pas très large, et voilà, il me dit, tu suis le passadis et puis tu montes et tu vas t'installer là-haut. Donc je m'en vais bien chargé, parce que j'ai le sac photo, j'ai le trépied, j'ai le petit fauteuil, j'ai un sac avec les bâches, plus tous les vêtements, parce que là-bas, au lever du jour, il gèle, en principe. Donc je commence à partir, et puis il me dit, au fait, je t'ai pas dit, si jamais tu croises un cerf ou une biche dans le passadis, pousse-toi, parce que eux, ils se pousseront pas. Bon. Ouais, ça va mettre un petit peu le doute, mais bon, je monte. Et alors, ce passadis, en fait, d'un côté à gauche, j'avais une pente vraiment sévère avec les cailloux et tout, et à droite, j'avais des buissons d'épineux. J'ai dit, s'il y en a un qui descend, je vais prendre les épineux, hein, parce que là, c'est pas bon. Hein. Et puis je monte, et puis au fur et à mesure que je montais, j'entends un bazar dans la côte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, comme le jour commence à se lever, j'aperçois un cerf, mais énorme. Il est en train de débrancher un petit arbre, mais alors il est resté plus que le tronc. Avec le bois, il s'acharnait dessus. Et j'ai dit, eh ben, disons, si celui-là décide de descendre, t'es pas embêté, là. La porte poussée. Et j'ai attendu peut-être un quart d'heure ou 20 minutes, couché dans la pente, à essayer d'espérer qu'il s'en aille, et puis au bout d'un moment, il est parti. Donc j'en ai profité pour et grimper le plus vite possible, aller me mettre à la flèche à eau. J'ai pas été arrivé là-haut qui revenait. Bon, après, j'ai pu faire des photos. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas fiers sur ce coup-là. Hein. Voilà. Donc, il casse les branches. Alors, bon, c'est difficile d'expliquer en photo. Voici une petite vidéo. Voilà, il a réussi à en couper un bout. La souille, c'est une flaque de boue, naturelle ou parfois creusée par les animaux, où les cervidés, entre autres, aiment à se rouler pour se débarrasser des parasites, mais aussi pour se rafraîchir ou calmer le feu du rut. Les cerfs y frottent également les bois, ils creusent aussi pour atteindre la couche de terre plus humide. Et en même temps, ils urinent et laissent du sperme, les yeux souvent révulsés. Voilà, les quatre pattes en l'air. Celui-là aussi semble apprécier. En voici encore un souillé debout. Celui-là, il est tout ruisselant. Alors, tous les membres de la harde aiment passer par la souille, du fin au grand cerf, en passant par les biches et les aguets. Voilà, un bain de boue en famille. Voilà la biche. Le faon aussi, lui, se plaît à la souille. Alors, je ne sais pas si c'est des enfants là dans la salle, mais s'il y en a, c'est très bon pour les cerfs, mais évitez quand même. Hein. Voilà, il faut bien mettre partout, dessus, dessous. Jeune cerf. Voilà, il imite papa. Thank you. forêts d'Aguet, on l'a vu, ont été écartées de la Harde par le cerf, et ils se retrouvent et jouent parfois à simuler des combats. Mais c'est toujours sans aucune violence, ce sont en fait des jeux d'adolescents, quoi. Voilà, ils imitent les grands. Alors, le fan, lui, il s'amuse tout seul, lui, par contre, de son côté. Lorsque un autre mâle se présente pour s'accaparer une ou plusieurs biches, s'ensuit une confrontation qui peut aller de la simple intimidation jusqu'au combat. Donc, en présence d'un intrus dans son territoire, le cerf va chercher à l'intimider pour le faire partir. Il va alors marcher d'un pas saccadé, le fanon bien en avant, la tête haute, pour essayer de l'impressionner. Alors celui-ci, moi j'étais caché dans une haie, avec des filets devant moi, et celui-ci m'avait repéré, ou du moins il avait trouvé que la haie était bizarre. Donc pour tenter de comprendre ce qu'il y avait de pas normal, il a commencé à aller et venir dans la position typique de l'intimidation. Il va alors donc aller et venir de gauche à droite, de droite à gauche, plusieurs fois de suite pour essayer de faire bouger ou réagir l'intrus. Et ça a duré 3-4 bonnes minutes. Vraiment, il ne comprenait pas ce qu'il y avait d'anormal. Je l'avais à une quinzaine de mètres, à peine. Il a fini par bramer, puis s'est éloigné gentiment. Voici un autre dans la marche de l'intimidation. Bon, vous allez voir, c'est plus facile à comprendre en vidéo. Vous voyez, c'est impressionnant, la manière dont il marche. Il y avait un daguet un peu plus haut. Regardez bien, c'est moi, je suis chez moi. Alors, un jeune cerf sera repoussé par une simple démonstration de force. Quelques petits pas rapides, suivis d'un coup de pied en avant, suffit généralement à écarter le jeune importeur. Ce geste très rapide est difficile à avoir en vitesse réelle. Je vais vous montrer une vidéo. Mais, en fait, le cerf peut intimider le rival aussi en grinçant des dents. Bon, mais ça, par contre, j'ai pas pu vous le montrer en photo, hein. Alors regardez bien la patte avant droite, vous avez vu le petit coup de pied, on va le voir en ralenti. Voilà, ça veut dire dégage, t'es pas chez toi, va-t'en. Voilà, c'est très rapide, mais... Alors si vous croisez un cerf un jour dans les bois et que vous voyez qu'il fait ça, il cherche pas la confrontation, il cherche juste à vous faire partir. Donc éloignez-vous gentiment et tout se passera bien. Alors avant d'en venir au combat, les cerfs qui se sont rapprochés commencent d'abord par se toiser. Ils marchent côte à côte d'un pas raide et cadencé, en hérissant les poils pour paraître plus gros. Autre signe de l'imminence du combat, c'est la révulsion des yeux. On appelle ça les yeux blancs. Ça annonce la charge imminente. Si aucun des deux ne se désiste, les deux cerfs, d'une volte-face, vont s'affronter. Voilà, celui-ci engage une course avec l'adversaire. Ils courent côte à côte, mais aucun des deux ne veut céder. Donc s'ensuit alors l'affrontement. Les bois s'entrechoquent puissamment et les bêtes usent de toute leur force pour pousser l'adversaire et tenter de le faire plier ou de le faire tomber. Bois contre bois, c'est vraiment une démonstration de puissance. Alors cette photo et les 10 qui vont suivre ne sont pas de moi. Je dois remercier Patrice Godard, qui est photographe animalier, qui m'a offert ces images de combat en terrain dégagé. C'est quand même assez rare de les avoir aussi nettes. Donc on voit là la puissance des bêtes. Elles labourent littéralement le sol avec les bois. Alors celui de gauche, le plus clair des deux, a pris le dessus. Il réussit à faire plier son adversaire. On voit bien la tête de celui qui est le plus sombre, là, qui va toucher la terre, tout à fait. Et finalement, il va abandonner le combat. Le plus fort essaie de porter un coup au flanc. Mais bon, le perdant a esquivé. Il prend la fuite, poursuivi par le vainqueur pendant une centaine de mètres. Voilà, le vainqueur épuisé. La langue pendante mettra de longues minutes à s'en remettre. Voilà, comme une insulte, il va ensuite lancer un brame puissant de victoire. Il arrive quelquefois qu'un troisième cerf se trouve à proximité. Et là, généralement, celui-ci profite du combat pour s'en aller avec les biches. Alors, c'est une vidéo de combat qui est... J'étais très loin. J'avais pas compris ce qui se passait au départ parce que je voyais pas trop bien. Et il y a un cerf au-dessus qui s'est emmêlé les bois dans un fil de fer barbelé. Et donc il est en mauvaise posture. Du coup, il va arracher le poteau. Rendez compte de la puissance, là. Puis ça fait du bruit, vous l'entendez de loin. Voilà, donc là, il va se dégager. On voit le fil de fer encore accroché au bois. Il va se dégager. Voilà, il a perdu. Donc le combat n'est généralement pas un combat pour la mort, mais des blessures peuvent s'avérer importantes. Celui-ci, il a encore la marque du coup sur la cuisse gauche. Voilà, on le voit un peu mieux ici. Il arrive aussi que les bois des rivaux restent accrochés les uns aux autres. Et il s'ensuit généralement la mort par épuisement des deux combattants. Alors toute cette période de rute est éprouvante pour le cerf, je vous l'ai dit, qui mange peu, qui dort peu, qui surveille sans arrêt et qui se bat pour conserver son harem. Alors il peut perdre jusqu'à 20 kilos durant cette période. Quand il bénéficie d'une courte période de calme, on peut le voir s'endormir, épuisé, parfois même dormir debout, mais le sommeil ne durera que quelques minutes. Voilà, tranquille, et il finit par s'endormir. Une belle sieste au soleil. Voilà, c'est le commentaire. On peut voir aussi le cerf, le nez au vent, pour détecter les odeurs alentour. Suivre les traces des biches, la présence d'un rival, mais aussi une odeur suspecte. On dit alors qu'il prend le vent. On le voit ici éventer l'odeur des femelles, le cou tendu, le museau en avant, humant l'air en entrouvant la gueule et en retroussant la lèvre supérieure et les naseaux dans un mouvement spasmodique vers le haut, comme le font les taureaux et les étalons. On dit alors qu'il muse. Voilà la manière d'un chien de chasse. Il suit la piste. Ça sent bon par là. Ben ouais, elle est là, la maman. On l'a trouvée. Et a senti quelque chose. Un petit jeune qui fait pareil. Quand tout est tranquille, la harde au repos permet à chacun de se reposer, évidemment. Quand les biches ont assez mangé, elles viennent se coucher autour du cerf pour ruminer paisiblement. Alors, après une bonne sieste, le mâle émerge lentement. Il brame doucement pour signifier que la pose est finie. Et c'est à la biche favorite du moment, sans doute toute proche d'être en chaleur, que le cerf manifeste son intérêt en lui léchant doucement le museau. Voilà, un petit bisou. Elle ne refuse pas ses avances, hein, au contraire, elle étire le cou pour mieux en profiter. Et puis, le cerf oblige alors la biche à se lever et elle obéit aussitôt. Le faon, lui, par contre, il bouge pas, il a bien compris qu'il n'est pas invité à cette fête-là. Il reste paisiblement couché pendant que le cerf se met à poursuivre la biche. C'est pas beau, ça? Le cerf se rapproche de plus en plus de la femelle qui se dérobe sans vraiment chercher à échapper à son poursuivant. Voilà, on voit la langue tirée du cerf. Alors elle traverse la harde couchée comme pour chercher de l'aide parmi les autres animaux. Mais il ne se lève même pas. En fait, c'est une sorte de rituel avec ses diverses phases. On a presque l'impression de voir une figure d'une danse immuable. Parfois, le cerf s'arrête et brame longuement, mais la biche ne profite pas de cette interruption, de la poursuite, pour s'éloigner, mais au contraire, elle s'arrête comme si elle l'attendait. Voilà, il s'arrête, mais ça ne va pas. Si vous avez un voisin qui s'est endormi sur la chaise, réveillez-le, hein, c'est le moment. Alors, c'est la biche qui s'arrête d'elle-même et qui choisit l'endroit de la saillie, laissant au cerf tout le temps de s'installer au mieux. La femelle supporte une bonne part du poids du mâle qui peut peser jusqu'à 200 kg. La pénétration est immédiate et c'est très vite suivi de l'éjaculation. À cet instant précis, le cerf se cabre en rejetant la tête en arrière et souvent la biche sur le coup de rein est projetée à plusieurs pas. On dit alors que le cerf a fait la chandelle ou a couvert la femelle. La saillie en soi a duré quelques secondes, le cerf retrouve son calme et les autres femelles viennent aux nouvelles pendant que la biche se vide. Alors sans doute excité par l'odeur très forte du sperme, le faon se place derrière la biche qui vient d'être couverte et tente d'imiter le grand cerf. La biche va lui faire comprendre fermement que c'est pas pour lui. Voilà, l'acte sexuel pourra être renouvelé de nombreuses fois. Le maître de place couvrira ses biches l'une après l'autre quand elles seront à chaleur. La biche meneuse va ensuite amener tout le groupe vers un lieu de gainage couvert. Attention, hein, attention, ça arrive. Il n'a pas l'air fougueux celui-là quand même. Du coup, elle revient le chercher. Il lui fait comprendre qu'il a raté son coup, là. Raté. Oh, ce poteau, je l'ai maudit. C'est rapide. Hein? Voilà, la biche se vide. Les autres viennent aux nouvelles. C'est bien? Le RUT ne dépasse guère une quinzaine de jours pour chaque cerf. Les plus anciens, démarrant en premier, quittent la place de Brame début octobre. Ils errent ensuite encore pendant quelque temps autour de ces places avant de regagner leur lointain couvert. Ils seront remplacés par des cerfs plus jeunes, généralement tout est terminé vers le 15 octobre. Certains grands cerfs viennent de très loin, couvrant pendant la nuit de très longues distances pour venir au Brame chaque année au même endroit. Ce sont ce qu'on appelle les cerfs pèlerins. Dès la fin du RUT, ils regagneront leur territoire. L'hiver n'est pas loin. Les cerfs tenteront de reprendre des forces pour affronter les rigueurs de l'hiver. Alors j'espère que ce diaporama vous aura permis de mieux connaître cet animal, maillon essentiel de la biodiversité. Chaque espèce a sa place dans la nature. Et bien souvent, il dépend de l'homme de préserver cet équilibre. Pour terminer ce diaporama, une petite vidéo.
Si je comprends bien, merci aussi à Jacques Borel, qui n'est plus là. Mais Isabelle, vous allez bien répondre à quelques questions ?
Oui, bien sûr.
Nous qui faisons l'inventaire des fonds de l'art, on voit souvent dans les parcs, les grands parcs des châteaux, des statues de cerfs. Alors il y a le cerf d'Europe, le cerf de cerf d'Amérique. Et on voit donc un lien fréquent entre le cerf, c'est-à-dire, et le monde aristocratique. Et ça me faisait, quand vous avez détaillé tous les noms, il y a un vocabulaire extraordinairement complexe pour chaque dans la vie du cerf pour son anatomie, etc. Est-ce que c'est de là que vient cette pratique de la chasse, par exemple, parce que le cerf était chassé, je pense. Donc, est-ce que c'est de là que vient tout ce vocabulaire qui est vraiment d'une diversité extraordinaire?
Ben, en fait, je sais pas trop. Moi, je sais que dans l'éthologie, qui est la science du comportement animalier, tous les termes que je viens de donner sont des termes qui ont toujours été là. Après, peut-être que la chasse, elle, s'en est appropriée. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être pas le cerf, enfin, l'étude du cerf qui s'est pris les appellations de la chasse. C'est, à mon avis, c'est le contraire.
Merci beaucoup. Les deux derniers automnes, là, en octobre, j'ai eu l'occasion d'aller écouter le Brame du Cerf avec la Maison du Patrimoine qui organisait. Donc, on était quand même à distance, mais c'était très impressionnant comme ambiance. Et là, je me suis demandé, comme c'était la période où on était allé, hein, début octobre, avec la pluie incessante de ces derniers jours, est-ce que ça peut amener à perturber leur...
Pas du tout. D'accord. Ça perturbe plus les observateurs.
Au niveau odeur, tout ça, c'est pareil.
Non, mais là, oui. Ce qui les perturbe le plus, c'est quand il fait très chaud avant la période, comme là, cette année, il a fait très chaud au moins au 15 septembre, donc ça a retardé un petit peu. Mais après, ça ne fracassez pas, ça les empêche pas.
Oui, je voulais juste savoir si on pouvait encore les entendre en ce moment.
Oui, je pense que oui, mais ça tire à la fin, là. Hein. Ça tire à la fin, il reste encore quelques jours, peut-être, mais...
Ah, on a choisi la date, en pensant qu'il y avait encore des possibilités.
Voilà, maintenant, si vous voulez un complément, on fait un complément. Vous avez à disposition les DVD produits par la VQR, qui va reprendre, justement, la conférence, là, donc. Vous l'aurez à la maison. Voilà, c'est les mêmes commentaires, les mêmes photos. Bon, c'est 10 euros le DVD. Voilà, vous avez des photos aussi, des cadres. Ce sont les photos que j'ai faites.
Oui, les photos sont là pour la conférence.
Ils sont en vente à 90 euros, cadre compris. Donc, si vous voulez faire un cadeau ou vous faire plaisir.
Bon, pas d'autres questions?
Tu nous parles de la visite à Murat, là, tu y es allé récemment, il n'y a pas très longtemps. Un des endroits où Jacques avait filmé des animaux, et tu as eu une mauvaise surprise.
Oui, l'année dernière, je suis partie seule au Brame, évidemment, parce que M. Borel était déjà décédé. Et les années précédentes, on avait un endroit, d'ailleurs, il y a 80% des photos et des vidéos qui ont été faites à cet endroit-là, un endroit vraiment isolé, en plein cœur de la montagne. Et nous faisions à chaque fois, sur 15 jours, à peu près 4000 photos. J'ai une photothèque de plus de 10 000 photos de cerfs, donc j'avais de quoi monter un diaporama. Et l'année dernière, j'y suis montée toute seule, et je me suis mise au même endroit, et j'ai attendu 4 jours, du matin au soir, toute la journée, j'ai attendu, je n'ai rien vu. Alors j'ai trouvé ça bizarre quand même, et en repartant, j'ai vu une mamie qui habite un peu plus bas, et je lui ai dit, j'ai rien fait cette année. Elle me dit, mais c'est pas étonnant, dans le bois là, ils en ont tué 23 cet hiver. Alors évidemment, s'ils sont en congélateur, ils ont du mal à courir. Hein. Donc, voilà, c'est un commentaire. La chasse est réglementée, mais là-bas, là, en Auvergne, la chasse du cerf est autorisée à partir du 20 octobre. Donc ils ont le temps de se reproduire. Ici, Saint-Antonin, la chasse est autorisée 7 jours sur 7 pendant la période de brame. Voilà, ça dépend des régions. Donc bon, bien sûr, c'est réglementé. Ils ont un quota, mais les quotas sont tellement élevés que ça fait des dégâts considérables dans les populations.
À propos de chasse et d'habitat des cerfs, est-ce qu'il y en a eu toujours partout? Est-ce qu'il y en a qui ont été introduits de manière un peu artificielle à une époque? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça se...
L'histoire du cerf, bon, je la connais pas vraiment. Je sais qu'ici, ils ont été introduits il y a plusieurs dizaines d'années. Il n'y en avait pas avant ici. Bon, ils se sont très bien acclimatés. Dans la région d'Auvergne où je vais, ils ont été introduits dans les années 60. Ce sont les cerfs qui ont été rapatriés de Chambord. pour essayer de combler la population, la population locale. Ils se sont très bien habitués aussi. Et mais bon, c'est pas des souches, quoi. Mais bon, ça reste toujours dans le même environnement en France. Ils s'acclimatent très bien, quoi.
Si certaines d'entre vous ont des certains animaux, qu'est-ce que tu pistes en ce moment?
Ah, oh ben en ce moment, oui, je prends tout ce qui vient, moi. Tout ce qui... Oui, si vous avez chez vous une chouette effraie, vous savez, ces chouettes blanches, là, dans les vieux pigeonniers, un endroit où je puisse m'installer pour faire des photos, ça sera avec plaisir. Après, ben, je suis toujours comme tous les photographes, on est à recherche de la loutre, qui est invisible, qui sort que la nuit, mais enfin, bon, des fois, on arrive à la voir de jour. Après, moi, tout ce qui vient, je prends. Tout ce qui bouge, qui a des poils, des plumes, je prends. Voilà, pas les serpents par contre, ça, ouais, vous évitez, j'aime pas trop. Mais vous pourrez aller voir si vous voulez sur le site carcianimalier.fr, c'est ce qu'on avait mis en place avec Monsieur Borel avant son décès. Et c'est un peu, il y a des photos, il y a des thématiques, ouais, c'est instructif.
Bonjour, on a parlé beaucoup du cerf, comment ça cohabite, comment il cohabite avec les chevreuils?
Ah, très bien, parce que chacun a son domaine. J'ai eu vu des chevreuils au milieu des cerfs. Donc chacun, ils se partagent, ils ne sont pas comme nous, ils arrivent à se partager l'espace vital. Et non, il n'y a pas de problème. Hein. Même avec les sangliers, chacun respecte l'autre. Le seul prédateur vraiment du cerf, ça serait le loup, mais comme personne ne veut introduire le loup dans la région, c'est dommage parce que non, mais c'est vrai, je blague pas, le loup serait très utile. Après, dans d'autres prédateurs, ça s'attaque pas au cerf, mais le renard est extrêmement utile dans la nature. Le renard, enfin, je cherche à le défendre moi parce que quand vous avez une bête malade, morte. Mais morte de maladie, le renard va bouffer la carcasse, la charogne. Donc ça évite la propagation des maladies. Le renard bouffe 8000 rats, rats des champs, tout par an. C'est énorme, ça évite de mettre des pesticides dans les champs pour tuer les rats. Et ça permet aussi, ça a été prouvé scientifiquement, que partout où il y a des renards, il n'y a pas de maladie de lyme. Et parce que le renard bouffe, parce que la maladie de Lyme vient des rats, et le renard y en mange tellement que voilà, il n'y a pas de maladie de Lyme. Donc il faut protéger le renard. C'est vrai que les gens ont du mal à le comprendre, ceux qui ont des poulaillers. Ouais, mais il me bouffe les poules. Et oui, il mange les poules, mais il suffit d'enfermer les poules et c'est terminé. Il faut absolument protéger le renard.
Quand vous rencontrez éventuellement une bête blessée, je pense aux oiseaux, est-ce que vous avez un référent, par exemple non. LPO
pour, moi, ça m'est jamais arrivé, mais là, il faut absolument, il faut pas chercher à la soigner soi-même, il faut absolument appeler la LPO. Je crois qu'ici, on dépend de la LPO du Tarn, mais il faut absolument...
Parce que là, malheureusement, après les pluies incessantes dans le village, j'ai trouvé plein de petites hirondelles.
Hirondelles, oui.
Et là, c'était fini, quoi.
Ouais, on m'a appelé et j'ai eu contact avec l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. Bon, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, parce que les hirondelles, ce sont des oiseaux qui mangent en vol des insectes. Donc, on a bien essayé de leur porter des compléments alimentaires pour oiseaux insectivores, mais ils ne le mangent pas. Et toutes celles qui sont mortes, ce sont des hirondelles très jeunes, qui sont de la dernière couvée. Et malheureusement, il n'y aura rien à faire parce qu'elles n'auront pas la force de repartir. Si elles ne meurent pas ici, elles mourront pendant le voyage vers l'Afrique. Donc, c'est une catastrophe parce qu'il y en a énormément cette année qui sont mortes. Voilà, ouais, tout à fait. Alors, oui, il y en avait partout. Alors, par contre, si jamais vous en trouvez encore des mortes, essayez de prendre une photo sans la toucher quand elle est au sol. Vous avez des photos au sol? Ouais.
Après, je l'ai vu avec les yeux, voilà, avec la membrane blanche.
Parce que moi, j'ai partagé des photos avec l'OFB, justement, qui était à la recherche de ça. Et ils m'ont demandé si j'avais des photos de l'oiseau sans l'avoir touché. Je n'en avais pas. Mais bon, si vous en avez,
elle est en
Voilà.
C'est pas près des habitations, là.
Oui. Et donc, je serais preneuse si vous pouviez me prêter la photo pour leur partager. Ouais, vous avez des cartes avec mon adresse mail.
Un certain nombre de personnes disent que actuellement le nombre de cerfs est en augmentation sur le terrain. Est-ce que c'est vrai?
Qui c'est qui dit ça?
Les agriculteurs essentiellement.
Je sais pas, je les ai pas comptés. Je sais pas, mais bon, moi j'entends toutes sortes de cloches. J'entends des gens qui ont envie de les réduire, qui disent qu'il y en a trop. De toute façon, il faut se faire l'idée que la nature n'a pas besoin de nous pour se réguler. Je veux dire, que ce soit les cerfs ou autres, au bout d'un moment, ils vont réduire la reproduction. On n'a jamais vu un endroit où il y a 3000 cerfs pour un hectare de pré. Ils se régulent tout seuls. Pour exemple, les renards. J'en reviens toujours aux renards, mais parce que je connais bien. Pour exemple, les renards. Si vous avez, je vais dire une bêtise, 15 renards dans un secteur, vous allez en tuer 10. Mais automatiquement, ils vont reproduire un peu plus ailleurs pour ramener le nombre de 15 au même endroit. Donc ça sert à rien, ça sert à rien de les tuer parce qu'ils vont augmenter leur reproduction en fonction de leur possibilité de manger. C'est pareil chez les oiseaux, chez les rapaces par exemple, une année où il n'y aura pas beaucoup de rats des champs. Les rapaces mangent beaucoup de rats des champs. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ils le savent à l'avance. Ils vont augmenter ou réduire leur reproduction. Le nombre d'œufs pondus sera en fonction de l'alimentation à venir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que s'ils savent qu'il n'y aura pas de rats, un rapace va faire un œuf ou deux. S'ils savent qu'il y aura beaucoup de rats pendant l'été, pour élever les petits, un rapace va faire 4-5 œufs. Et chez les mammifères, c'est pareil. Donc, de tout temps, ils n'ont pas besoin de nous pour se réguler, les animaux, hein, je vous assure.
Moi, comme Nathalie, je suis allée écouter les brames du cerf. Ce que je trouve très impressionnant, qu'on ne perçoit pas beaucoup dans le film, c'est quand il y a une dizaine de cerfs. En même temps, le niveau sonore et les différences de voix des cerfs selon leur âge, c'est très impressionnant. C'était une sortie organisée par le CPIE à Caylus, de Caylus avec un technicien de chasse du Tarn-et-Garonne, sur l'origine des cerfs dans le coin. Il y a une sortie de la Grésigne, sans doute pour conquérir des nouveaux territoires, et les quotas de chasse était très très loin d'être atteint et le nombre de cerfs dans le Tarn-et-Garonne est effectivement en forte augmentation.
Voilà, je ne donnerai pas mon avis parce que le nombre de cerfs en Tarn-et-Garonne, je ne sais pas. Je ne peux pas, là je n'interviens pas parce que je dirais les bêtises.
Il n'y a personne de la Fédération de la chasse du Tarn-et-Garonne ici. C'est leur boulot.
Bien, ce que je sais au sujet du nombre de cerfs, c'est que dans le Cantal, là où je vais, il y en a de moins en moins, mais ça devient vraiment dramatique. Ça devient dramatique. Mais ils continuent de chasser. Bon, après, je ne suis pas dans leur petit papier.
Bon, il n'y a pas d'autres questions. Là, on va remercier Isabelle. Merci.